Pour l'amour de Sion, Israël, mythe et réalité. Bonjour, nous sommes Stéphanie Soufir et Michael Barzvi. Nous sommes à Radio TAF à Tel Aviv. Nous vous proposons une série d'émissions dédiées à Israël et au sionisme, à travers l'histoire, à travers les grands événements qui ont marqué Israël, les personnages qui l'ont façonné, les idées et les mouvements de pensée qui ont forgé cette histoire. Notre but est de comprendre, d'expliquer, de donner des faits et des éléments de réponse aux questions que tout le monde se pose sur Israël et le sionisme. Bonjour Michael.
Bonjour Stéphanie.
Comment vas-tu?
Ça va.
Alors aujourd'hui, nous allons parler de la déclaration de Balfour.
Oui, Balfour, Lord Balfour. Mm-hmm. La déclaration Balfour, c'est un tournant dans l'histoire du sionisme. Sans aucun doute, le tournant, je dirais, de l'entreprise sioniste est le moment où on commence à voir la réalisation d'un foyer juif, d'un État juif, qui se profile. On ne sait pas exactement combien de temps. L'organisation sioniste, évidemment, espère que, grâce à ce soutien du gouvernement britannique au projet sioniste, le foyer juif verra le jour en l'espace de quelques années. Personne ne peut dire exactement quand.
Mais qu'est-ce que c'est exactement la déclaration de Balfour?
Alors, la déclaration de Balfour, c'est une lettre, un échange de courrier, en fait, qui a été envoyé par Lord Balfour, qui était le ministre des Affaires étrangères britannique, à Lord Rothschild. Mais bien évidemment, cela concrétise en fait toute une action diplomatique qui se déroulait déjà pendant toute la Première Guerre mondiale. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est le contexte qui est assez complexe de cette déclaration, qui vient d'un côté abonder dans le sens des exigences ou des revendications ou des souhaits ou des aspirations du mouvement sioniste, mais qui aussi s'inscrit dans un contexte géopolitique de la Première Guerre mondiale. Dans cette Première Guerre mondiale, évidemment, il s'agissait d'une guerre où les grandes puissances étaient impliquées et avaient des intérêts géopolitiques qui dépassaient largement, je dirais, les intérêts géopolitiques du mouvement sioniste ou uniquement des populations autochtones de la région du Proche-Orient en général. Donc tout le monde comprend dans la Première Guerre mondiale que lorsque cette guerre va se terminer, il y aura une recomposition, on va redessiner tout le paysage des nations en Europe et au Proche-Orient. Et les grandes puissances qui sont à la tête, je dirais, du combat, bien évidemment, espèrent, comme on dit, se partager le gâteau entre elles. Il y a des accords. On sait qu'il y a des axes, si vous voulez, d'accords. Il y a d'un côté une entente entre l'Angleterre, la France et la Russie au départ de la guerre. En cours de la guerre, la Russie va sortir de cette entente après la révolution d'octobre. On connaît cette histoire. Et puis, d'un autre côté, en face, il y a l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et tous leurs alliés, dont l'Empire ottoman. Il s'avère, dès le début de la guerre, que cet Empire ottoman n'est pas un empire qui, malgré son nom et malgré, je dirais, l'énorme superficie de son territoire, n'est pas un empire qui a les moyens de sa puissance. Et donc, il n'a pas une armée qui est capable de faire face aux armées qui commencent déjà à être des armées modernes de la France ou, bien évidemment, de la Grande-Bretagne. Et donc, il est clair qu'au terme de cette Première Guerre mondiale, on ne sait pas encore qui va gagner cette Première Guerre mondiale, cet empire ottoman va être démantelé. Et comme cet empire ottoman a la mainmise sur un certain nombre de territoires au Proche-Orient et notamment des zones dans lesquelles il y a cette nouvelle ressource importante pour le monde moderne qui est le pétrole, et on sait qu'il y a d'énormes réserves de pétrole dans cette région-là, donc forcément, il y a une course aux intérêts et il y a des enjeux stratégiques, politiques, militaires et aussi économiques extrêmement importants.
Ça veut dire que les sionismes, ils se retrouvent à demander quelque chose en face de personnes qui ont d'autres intérêts que le sionisme, qui ont les intérêts pétroliers ou d'autres intérêts.
C'est un peu comme un jeu d'échecs.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il y a des pions et le mouvement sioniste est un des pions de cet échiquier. Pas forcément le pion le plus important, bien évidemment. Un tout petit pion par rapport aux grandes puissances. Et puis, il y a d'autres populations sur le terrain, je dirais, qui sont là, qui représentent à l'époque plus des tribus, des communautés religieuses, ethniques ou autres, et qui donc ont des intérêts plutôt d'ordre, je dirais, culturel, ethnique, pas encore vraiment national. Mmh. On ne peut pas encore parler à l'époque, par exemple, d'une nation arabe. On ne peut pas, les pays que nous connaissons aujourd'hui, comme étant des États-nations arabes, n'existent pas sous la forme où nous les connaissons aujourd'hui. Mmh. Et donc, de la même façon qu'en Europe, on va créer de toutes pièces des nations qui n'existaient pas à la veille de la Première Guerre mondiale. On voit ce qui s'est passé dans les Balkans, y compris dans l'Empire austro-hongrois, qui va tout d'un coup va apparaître, la République tchèque, la Hongrie, ce qui est devenu après la Yougoslavie, qui était la Serbie. Et donc toutes ces petites nations qui se sont créées comme nations indépendantes sur la base d'une culture commune, sur la base parfois d'une langue aussi, et d'une présence sur un territoire, eh bien, ce même principe, on veut l'appliquer également au Proche-Orient. Mmh. Sauf qu'au Proche-Orient, ça ne marche pas tout à fait de la même façon.
Pourquoi ?
Parce que les appartenances ne sont pas vraiment des appartenances nationales, elles sont plus ethniques, religieuses, et même, je dirais, à caractère peut-être plus tribal. Mmh. Et donc, il y a, on le voit encore aujourd'hui, et on comprend aujourd'hui, avec ce qui se passe aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui, que ces accords signés il y a 100 ans ont une influence sur le destin du monde aujourd'hui. Parce que toutes ces luttes entre les chiites, les druzes, que l'on voit aujourd'hui dans des pays comme la Syrie ou comme l'Irak...
Ce sont des partages qui ont mal été faits.
Voilà, ce sont des résultats, des partages qui ont été faits au moment de la Première Guerre mondiale, avec, je dirais, des pensées qui étaient plus des pensées à caractère stratégique, économique, et je dirais peut-être impérial ou même colonialiste, si on veut être plus dans le jugement, mais bien évidemment qui ne correspondent pas forcément à des réalités culturelles, nationales, politiques sur le terrain. Et donc on crée de toutes pièces un certain nombre de pièces de ce puzzle qui n'étaient pas là auparavant. Alors la déclaration Balfour, elle vient dans ce contexte. Les sionistes sont extrêmement heureux parce que c'est la première fois qu'une grande nation déclare son intention de soutenir la fondation et le rétablissement d'un État juif en Palestine, en terre d'Israël. Mmh. Les frontières ne sont pas encore fixées au moment de la déclaration Balfour. On ne parle que d'une déclaration de principe.
On est en 1917, c'est ça ?
1917. Et donc, on sait que c'est uniquement une déclaration de principe qui va ensuite aboutir probablement à la présence d'un pouvoir britannique qui mettra en place, disons, les conditions de création, de fondation de ce futur État juif.
Ça veut dire que la déclaration de Balfour a été faite avant que l'Angleterre prenne, entre guillemets, le pouvoir de la Palestine.
Oui, ça s'est fait pratiquement en même temps, je dirais, à peu près en même temps, puisque sur le terrain, les Britanniques arrivent à peu près à la même période. Ils sont déjà en guerre, ils sont déjà présents en Égypte. Et donc l'armée britannique, commandée par le général Allenby, va remonter par le Sinaï pour occuper et conquérir la Palestine.
D'accord.
Ça se fait pratiquement au même moment.
D'accord.
Sauf que, on apprend, et là l'histoire, c'est quand on analyse l'histoire, on est obligé de prendre en compte tous les documents qui ont été et qui existaient. On se rend compte qu'en fait, avant la déclaration Balfour, il y avait déjà eu d'autres accords qui avaient été signés, notamment par les Britanniques, et nous, ce qui nous concerne, c'est plutôt les Britanniques, et qui étaient, d'une certaine façon, un peu contradictoires à la déclaration Balfour.
Des accords avec qui ?
Des accords avec la France, d'abord, essentiellement avec la France, mais pas uniquement, et puis certains engagements qui avaient été pris également avec les populations arabes de cette région.
Et en quoi il était contradictoire ?
Alors, encore une fois, la contradiction, c'est dans l'interprétation. C'est-à-dire que lorsque il faut se souvenir de ce contexte. Hein. Je pense que tu as vu Laurence d'Arabie, ce film sur ce mythe, donc de cette espèce d'officier britannique qui devient amoureux, je dirais, des Arabes, de ces Bédouins qui vivent dans le... Alors lui, c'est suite à... Il a été en prison... en Turquie, d'après ce qu'on dit, d'après ce, le mythe raconte, qu'il aurait été violé en prison par ses geôliers turcs ou par d'autres prisonniers turcs, et que donc il aurait développé une espèce de haine à l'égard de la Turquie, et donc il aurait soutenu d'une certaine façon le pouvoir britannique en disant « Vous avez nos alliés, ce sont les Bédouins, et donc il faut promettre aux Bédouins de créer un grand État arabe pour les mettre à la place de cet empire ottoman. Mmh. » Et donc, il propose au ministre des colonies, à l'époque, MacMahon, il lui propose de trouver un partenaire. Alors le partenaire, c'est encore une fois une tribu de cette région du Hijaz. Le Hijaz, c'est ce qui serait aujourd'hui une partie de l'Arabie saoudite, ce qu'on appelle la péninsule arabique. Et donc cette grande famille de Bédouins, sous la direction d'un shérif qui s'appelle Hussein, on lui promet de devenir, au fond, le propriétaire de toute cette région. Sauf qu'après, ça va contredire un autre accord que l'Angleterre signe, notamment avec la France, qui s'appelle les accords Sykes-Picot. Ces accords Sykes-Picot ont été signés en mai 1916, mais ils n'ont pas été rendus publics.
Et qu'est-ce que c'est, ces accords ?
Alors, je vais un peu détailler les accords Sykes-Picot, mais il faut bien comprendre qu'au moment où la déclaration Balfour est donnée aux mouvementionnistes, les sionistes, et le public en général ne connaît pas l'existence de cet accord Sykes-Picot, qui est un accord secret,
d'accord,
qui a pour but, en fait, de répartir tout le Proche-Orient au lendemain de la guerre.
D'accord.
Et donc cet accord, il est négocié avec un certain nombre de diplomates britanniques et français. Et cet accord, en fait, c'est l'ambassadeur Paul Cambon, qui est l'ambassadeur de France à Londres, et Edward Grey, qui est un secrétaire d'État au Foreign Office, qui rédige cet accord, connu sous le nom de Sykes-Picot, qui était le nom des ministres. Cet accord prévoit un certain nombre de dispositions. Alors évidemment, ils ont été ensuite remis en cause d'une certaine façon, parce que tout d'un coup, la Russie a quitté l'entente. Et donc, on était sur un autre accord après, puisque les Russes n'étaient plus en mesure de faire leur part du travail, si je peux dire. Mais en gros, il s'agissait de répartir le Proche-Orient en 5 zones.
D'accord.
Une zone bleue française, administration directe de la France, qui correspond aujourd'hui au Liban actuel et à une grande partie de la Syrie. Mmh. Une zone d'influence qu'on a appelée une zone arabe A, une zone d'influence française, zone arabe A. Mmh. Qui comporte le nord de la Syrie et la province de Mossoul.
D'accord.
On en parle beaucoup aujourd'hui, là où il y a les Kurdes. Et une zone rouge britannique, qui est administrée par donc l'Angleterre, qui est formée de ce qu'on appelle la Mésopotamie. Mmh. Mésopotamie, en gros, l'Irak, aujourd'hui. Hein, et le Koweït, c'est-à-dire la zone de ce qu'on appelle, d'accord, en gros, les États du Golfe aujourd'hui, pour être schématique. Ensuite, une zone arabe B, qui est sous influence britannique, mais qui comprend le sud de la Syrie, la Jordanie actuelle et la future Palestine mandataire.
D'accord.
Qui comprend, disons, tout ce qui y va de la mer Méditerranée jusqu'au Jourdain, et aussi de l'autre, une partie de ce qu'on a appelé après la Transjordanie, c'est-à-dire l'autre côté du Jourdain, la rive orientale du Jourdain. Et une zone qu'on appelle la zone brune, qui est la cinquième zone, qui est sous administration internationale et qui, là, comprend Jérusalem, Haïfa, Saint-Jean d'Acre. Et, bien évidemment, le but, c'était d'assurer, disons, un pouvoir international, parce que ces villes avaient des populations à la fois chrétiennes, à la fois juives, à la fois musulmanes.
C'est-à-dire, pour résumer, qu'en ce qui concerne la Palestine, c'est à la fois une zone internationale et à la fois une zone arabe d'influence britannique.
Voilà.
D'accord.
Et donc, ça, c'est les accords Sykes-Picot. Alors, où va se placer la déclaration Balfour dans lorsque les Anglais signent cette déclaration Balfour, ils savent qu'ils ont signé ces accords Sykes-Picot. Donc, comment envisagent-ils de composer, je dirais, entre cette promesse d'une zone arabe B d'influence britannique et la promesse d'une Palestine...
D'un foyer juif.
Voilà, d'un foyer juif en Palestine.
D'accord.
Et ça, on le verra après une petite pause musicale.
אני נושא עימי את צער השתיקה, את נוף האלם ששרפנו אז מפחד. הלא אמרת אליי, העיר כל כך ריקה. הלא אמרת אליי, נשתוק מעט ביחד. בחלוני קמלו כבר שושני הנוחם, בחלוני נסתם חזון המרחבים. רק הרחובות עוד מחייכים למלוא הרוחב, אל כל אשנב מוצת באור הערבים. בואי נצא שוב לחוצות אותם הלכנו, אל ספסלי האהובים בגן העיר. אולי נפגוש עוד בפנים אשר שכחנו, אולי נשמע עוד מחדש אותו השיר. בחלומות ההם על הספסל הקר, בחלומות ההם נרדים את עברנו, עד שיום אחד גבוה ומוכר ייפול שוב בנשיקות על צווארנו. אני נושא עימי את צער השתיקה, את נוף האלם ששרפנו אז מפחד. הלא אמרת אליי, העיר כל כך ריקה. הלא אמרת אליי, נשתוק מעט ביחד. בחלוני קמלו כבר שושני הנוחם, בחלוני נסתם חזון המרחבים. רק הרחובות עוד מחייכים במלוא הרוחב, אל כל אשנב מוצת באור הערבים. בואי נצא שוב לחוצות אותם הלכנו, אל ספסלי האהובים בגן העיר. אולי נפגוש עוד בפנים אשר שכחנו, אולי נשמע עוד מחדש אותו השיר. בחלומות ההם על הספסל הקר, בחלומות ההם נרדים את עברנו, עד שיום אחד גבוה ומוכר ייפול שוב בנשיקות על צווארנו.
Quelle magnifique chanson.
Ah, c'est Shlomo Artzi. Shlomo Artzi, je porte dans mon cœur l'amour d'Israël. C'est pas spécialement lié à la déclaration Balfour, mais disons que c'est une chanson d'amour pour la terre d'Israël. Voilà. Alors cette déclaration Balfour, évidemment, elle arrive à un moment où elle contredit d'une certaine façon des engagements qui ont été pris dans l'accord Sykes-Picot. Mmh. Et ça, c'est évidemment un problème. Et elle contredit aussi les fameux échanges de courriers entre le shérif Hussein et MacMahon. Et donc, lorsque la guerre va se terminer et que les Français et les Anglais vont vouloir prendre position et répartir ces territoires entre eux, évidemment, ça va soulever un certain nombre d'oppositions dans la population arabe notamment, qui souhaite qu'on respecte ses promesses. Or, ça n'est pas possible. Et bien évidemment, il va falloir après leur donner des compensations. Mmh. Et donc tout ça fait partie d'une répartition des cartes politiques au lendemain et je ne dirais pas tout à fait au lendemain, mais même avant la fin de la guerre, puisque la Palestine va être occupée ou conquise par l'armée britannique déjà dès 1917, c'est-à-dire un an avant la fin de la guerre. Mmh. Et donc déjà sur le terrain, les armées françaises et les armées britanniques sont présentes et commencent à répartir le territoire. Évidemment, lorsque les Arabes essayent de s'opposer, ils ne font pas le poids. Mmh. Militairement, ils ne font pas le poids. Donc forcément, ils sont repoussés. Certains s'opposent au pouvoir qui est en présence en Turquie. D'autres s'opposent à ce qui se passe dans l'Irak actuel. D'autres en Syrie. Et donc finalement, la répartition des accords Sykes-Picot ne se fera pas selon, disons, le programme ou selon la carte qui avait été prévue à l'avance. Mm-hmm. Il va y avoir pas mal de changements sur cette carte. Certaines choses vont rester et d'autres vont disparaître. Et bien évidemment, tout cela crée, je dirais, des haines, des conflits qui n'ont cessé, je dirais, d'animer le Proche-Orient depuis 100 ans. Mm-hmm. Et bien évidemment, ça a été aussi peut-être le début de ce qu'on peut appeler le conflit palestino-israélien ou arabo-israélien. À l'époque, on ne parlait pas de palestiniens, mais les Arabes de Palestine font partie, au fond, de cette répartition du jeu. Et ils sont considérés, eux, comme étant, selon ces accords Sykes-Picot, ils sont considérés comme étant des Syriens du Sud.
D'accord.
Ils sont pas des Égyptiens du Nord, ils sont des Syriens du Sud. Ils n'ont pas le statut. Personne ne parle d'eux en tant que Palestiniens. Mmh. On considère qu'ils font partie, justement, de la partie méridionale de la Syrie. De cette partie de zone d'influence britannique qu'on appelle le sud de la Syrie et la Palestine. Mmh. Alors évidemment, il y a Jérusalem, il y a Saint-Jean d'Acre, il y a Haïfa et d'autres villes comme ça qui sont un petit peu protégées, mais qui finalement vont perdre leur statut international. Mmh. Et donc, petit à petit, la France qui régentait d'une certaine façon Jérusalem et notamment la zone des lieux saints, en tant que zone internationale, va perdre son pouvoir sur cette zone. Dès 1923, ce sera entériné. La France, au fond, dès 1917, a été expulsée de Palestine et de Jérusalem. Et elle a accepté cette expulsion d'une certaine façon. Elle a préféré défendre ses intérêts, je dirais, en Syrie et au Liban, pour des raisons évidemment stratégiques, économiques et politiques. Mm. Alors la déclaration Balfour, lorsqu'elle est évidemment, les sionistes sont en contact avec la population arabe sur le terrain, ils ont des contacts plutôt amicaux avec les représentants justement de ces bédouins, et notamment Faisal, qui est le grand-père du roi de Jordanie, que l'on connaît. Et Faisal voit d'un œil tout à fait positif l'arrivée des sionistes, puisque lui sait qu'il va obtenir un grand empire qui va comprendre toute la partie orientale, c'est-à-dire toute la péninsule arabique, et également des terres dans le nord. Donc, de son point de vue, l'arrivée des sionistes est quelque chose qui ne dérange pas. Et d'ailleurs, il le déclare. Mmh. Un petit peu dans un échange de lettres avec Chaim Weizmann, il dit nous sommes tout à fait favorables à l'arrivée des sionistes et à la création d'un foyer juif. Donc, d'une certaine façon, sur le terrain, il y a des accords ou en tout cas une entente parfois entre les sionistes et les Arabes qui se trouvent dans cette région, et ce sont les grandes puissances qui vont, au fond, créer cette confusion et mettre, d'une certaine façon, les uns contre les autres. Mmh. Et ça, ce jeu des puissances est à l'origine, probablement, de ce conflit qu'on appelle aujourd'hui le conflit israélo-palestinien, mais qui est un conflit arabo-juif au départ sur la terre de Palestine. Alors, la déclaration Balfour, elle est le résultat d'une activité diplomatique qui a été mise en place par le mouvement sioniste, dont je rappelle qu'il était au départ plutôt allemand, de culture, disons, mais qui, petit à petit, s'est depuis 1911, a déplacé son centre de gravité, disons, vers l'Angleterre. Cela dit, pendant la guerre, il y avait des problèmes, puisque les Juifs étaient des deux côtés, et qu'il y avait également des Juifs en Russie. Donc on a essayé de garder une forme de neutralité, en tout cas pour ce qui était des sionistes qui se trouvaient en Palestine à l'époque, et notamment ces sionistes étaient pour la plupart originaires de Russie, donc considérés comme ennemis par rapport à l'Empire ottoman. Mmh. Donc il fallait vraiment marcher sur des œufs, comme on dit. Et c'est la direction du Mouvement sioniste de Londres qui, petit à petit, s'est engagée aux côtés de l'Angleterre et de la France, c'est-à-dire de ce qu'on appelle l'Entente, et qui est arrivée à obtenir cette déclaration. Dans un premier temps, d'ailleurs, les mouvements sionistes s'est adressé au ministre des Affaires étrangères français, qui était Delcassé à l'époque, qui n'est pas du tout été intéressé et qui n'a pas cru, c'est ce que raconte en tout cas Jabotinsky dans ses mémoires, lorsqu'il rencontre le ministre des Affaires étrangères Delcassé, il dit qu'il n'est pas du tout intéressé aux sionistes et ne croyait pas du tout à la possibilité de retour des Juifs en Palestine. Il pensait que c'était quelque chose de tout à fait utopique et pas réalisable. Ce qui fait que Weizmann, qui avait d'excellents contacts avec le pouvoir britannique, parce qu'en tant que chimiste, il avait participé à l'effort de guerre par ses inventions en tant que chimiste, et il avait participé à l'effort de guerre et au développement, je dirais, de l'arsenal de guerre et des armes, notamment en matière de poudre à canon. Je ne connais pas le détail chimique de ce qu'il a apporté, mais en tout cas, il y avait une forme de reconnaissance à son égard. Et donc, il arrive à obtenir cette lettre qui est peut-être un des documents, je dirais, fondateurs, qui s'appelle la Déclaration Balfour. Est-ce que tu connais la Déclaration Balfour ?
Je vais en lire un extrait, justement. Donc, je vais le lire. Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif, étant bien entendu que rien ne sera fait qui puisse porter préjudice aux droits civils et religieux des communautés non juives en Palestine, ainsi qu'aux droits et statuts politiques dont les juifs pourraient jouir dans tout autre pays. Voilà.
C'est une belle lettre.
C'est une belle lettre.
Il y a quand même eu 12 versions.
De cette... d'accord.
Je pense que c'est la 12e, ou peut-être la 13e, je ne sais pas. Il y a eu 12, en tout cas, 12 brouillons de lettres, d'échanges de lettres, pour arriver à cette formulation, qui est quand même, d'un côté, extrêmement positif pour le mouvement sioniste, puisque c'est la première fois qu'on reconnaît les droits du peuple juif et ses aspirations, en tout cas, à installer un foyer juif en Palestine, c'est dit clairement, pour le peuple juif, et donc qu'il y a un engagement clair et net du gouvernement britannique de réaliser ce projet. Et d'un autre côté...
C'est assez prudent quand même.
Il y a une petite phrase qui laisse la place, quelque part, et ça on voit ce que c'est que la diplomatie, qui laisse la place justement au gouvernement britannique de dire « oui, mais ». Autrement dit... Nous allons faciliter, nous allons tout mettre en œuvre pour que se crée un État juif ou un foyer juif en Palestine, à condition que... Alors, ce « à condition que » est assez difficile à préciser, parce que lorsqu'on dit de ne pas porter préjudice aux droits civils et religieux des communautés non juives vivant en Palestine, ils avaient quel droit à l'époque ? Aucun. Donc, quelque part... il y avait
déjà les droits futurs.
Les droits futurs qui n'avaient pas du tout été établis, et on ne sait pas quelles sont ces communautés, qui sont ces gens. Et quelque part, il y a aussi une autre phrase qui est un peu curieuse et qu'il faut expliquer, mais celle-là elle a du sens. Il dit est de ne pas porter atteinte aux droits politiques dont jouissent les Juifs dans les autres pays. Ça, c'est important parce que la crainte d'un certain nombre de membres du mouvement sioniste, mais aussi de membres des communautés juives, d'une façon générale, c'est qu'à partir du moment où on reconnaît le droit aux juifs d'avoir une terre, un État, eh bien on peut considérer que s'ils sont citoyens d'un État, il faut qu'ils choisissent quelque part entre ça ou leur allégeance, comme on dit aujourd'hui, à cet État. Donc quelque part, il ne s'agissait pas de porter atteinte aux droits des juifs qui avaient obtenu une émancipation ou des droits civils dans les pays dans lesquels ils vivaient. C'est-à-dire le fait de reconnaître le droit au peuple juif sur la terre d'Israël ne devait pas leur enlever le moindre droit civique dans les pays dans lesquels ils résidaient. Évidemment, la crainte au moment où on écrit ce texte, novembre 1917, c'est la révolution d'octobre. C'est-à-dire que les juifs se sentent menacés par ce qui est en train de se passer en Russie, et avec la révolution dont on ne sait pas très bien exactement sur quoi elle va déboucher et quel va être le sort des Juifs. Est-ce que, justement, ils ne vont pas être persécutés par ce nouveau pouvoir qui arrive en place et qui nie l'existence d'un peuple juif en tant que tel. Donc tout ça, évidemment, fait que autour de cette déclaration Balfour, il y a à la fois une grande joie, un certain enthousiasme. On dit voilà, enfin, nous allons pouvoir réaliser nos aspirations, notre rêve. Et puis d'un autre côté, on comprend que il y a quand même un jeu diplomatique. Et cette phrase qui dit ne pas toucher aux droits, ne pas porter atteinte aux droits des populations ou des communautés qui vivent sur place.
C'est
évidemment
déjà préparer le terrain pour les accords de Sykes-Picot.
Évidemment, c'était lié justement parce que les Anglais savaient qu'ils avaient signé ces accords Sykes-Picot, ce qu'ils n'ont pas dit à l'époque, ce qu'ils n'ont pas dit aux mouvementionnistes en tout cas. Et puis c'était préparer justement les conditions dans lesquelles ils allaient demander un mandat à ce qu'on a appelé la Société des Nations, c'est-à-dire au terme de la Première Guerre mondiale, il y a eu des conférences internationales pour justement ce qu'on appelle les conférences sur la paix qui se sont déroulées à Versailles, à San Remo, et qui ont décidé, à Sèvres également, et qui ont décidé du sort des nations et des États et des accords entre les États. Mmh. Et donc, ils ont bien compris qu'il y avait un jeu politique à jouer. L'Empire britannique, là on parle de, non pas de la Grande-Bretagne, mais de l'Empire britannique, mmh. et que cet Empire britannique doit essayer de défendre avant tout ses intérêts, et que une des façons, et on le verra dans la réalisation du mandat britannique, une façon de maintenir le mandat britannique, c'est de servir à quelque chose. Et quand il y a un conflit entre les populations autochtones, eh ben on est là pour les séparer, on est là justement, donc on sert à quelque chose. Et donc, quelque part, nous sommes les garants des droits des Juifs et aussi des communautés.
Donc, nous sommes nécessaires sur place.
Voilà, donc nous devenons nécessaires et c'est nous qui allons être les garants justement de ces droits religieux, civiques et autres qu'ils vont inventer de toutes pièces, puisqu'ils n'existaient pas auparavant. Alors, cette déclaration Balfour, évidemment, dans le mouvement sioniste, elle apporte quelque part une espèce de, je dirais, de confirmation du projet sioniste. On se rend compte, évidemment, y compris, on l'a déjà dit dans les émissions précédentes, que le mouvement sioniste n'était pas majoritaire dans le peuple juif. C'était un mouvement assez minoritaire. Et donc là, on se rend compte que l'histoire est en train de tourner. Mmh. L'histoire change. Le mouvement de l'histoire fait qu'il va petit à petit se créer un foyer juif en Palestine. Les juifs, le mouvement sioniste non plus, n'est pas extrêmement pressé de créer un État tout de suite, puisque les moyens et le nombre d'habitants qui se trouvent sur place n'est pas suffisant. Donc, on a besoin du mandat britannique, ou en tout cas, on a besoin de la Grande-Bretagne pour mettre en œuvre, pour créer, disons, les bases de ce futur État. Mmh. On a besoin des Britanniques, et on pense à l'époque, parce que Balfour était tout à fait favorable au mouvement sioniste, et d'autres au sein du gouvernement britannique et au sein de, je dirais, de la classe politique britannique, il y avait beaucoup d'amis du mouvement sioniste ou de gens qui soutenaient la cause sioniste. Mais aussi, il y avait ce qu'on appelait les partisans de Laurence d'Arabie, c'est-à-dire l'autre partie. Donc les Britanniques ont toujours appliqué ce grand principe de la politique qui est divisée pour régner. Et ça, c'est, je dirais, dans toute leur politique coloniale. Et il faut se représenter quand même ce qu'était l'empire colonial britannique au lendemain de la Première Guerre mondiale. Avec l'Inde, ce qu'on appelle aujourd'hui le Commonwealth, c'est immense. Il s'agit de dizaines et de dizaines d'États. Ça va de l'Inde, ça va de Pakistan, ça va de, vous voyez, tout ça, c'est encore l'Australie, même le Canada sont encore des zones qui sont sous influence britannique, même si d'une certaine façon elles obtiennent une forme d'indépendance, elles restent sous ce qu'on appelle la coupe de ce qu'on appelle le Commonwealth. Et donc cet empire britannique, il veut absolument avoir la main mise sur le Proche-Orient et notamment sur les richesses et les ressources pétrolières. Mmh. Alors évidemment, le contrôle du canal de Suez, canal construit par les Français, je le rappelle, mais malgré tout, disons, les Français étaient les propriétaires du canal de Suez au départ, et ceux qui l'ont creusé, mais l'Égypte est aux mains des Britanniques. Mmh. Donc forcément, ce sont les Britanniques qui touchent les droits des bateaux qui passent par le canal de Suez. Ce sont les Britanniques qui ont plus ou moins le contrôle sur la plupart des ressources de pétrole du Proche-Orient, Et donc, même en Extrême-Orient, avec ce qu'on appelait les comptoirs britanniques, tout ça, toute cette économie mondiale de l'époque, elle est sous la coupe de l'Empire britannique. Mmh. Donc ce n'est pas un petit mouvement comme le mouvement sioniste qui va déranger, je dirais, cette grande machine de guerre et à la fois cette machine impériale qui apporte à la couronne britannique toute sa richesse, toute sa puissance et toute sa, je dirais, toute sa position en tant que puissance internationale. Il faut savoir, dans la mentalité, la France et la Grande-Bretagne, au lendemain de la Première Guerre mondiale, sont des grandes puissances, peut-être plus que les États-Unis, d'une certaine façon, dans l'image, plus que ça, même si c'est peut-être pas tout à fait réel. Les États-Unis ne se considèrent pas comme une puissance coloniale, alors que les Français et les Britanniques se considèrent comme des puissances coloniales, de la même façon que l'Allemagne l'était, mais l'Allemagne ayant perdu la guerre, elle va perdre tous les bénéfices qu'elle avait de sa présence, notamment en Afrique. Alors la France met plus l'accent sur l'Afrique et sur une partie du Proche-Orient qui est liée au Liban et à la Syrie, toute la zone, ce qu'on appelle la Mésopotamie, c'est-à-dire l'Irak, l'Arabie Saoudite actuelle, la Transjordanie, la Palestine, l'Égypte, vont être sous influence britannique. Et pour les Britanniques, le mouvement sioniste est un allié dans cette politique-là.
D'accord. Et comment est-ce qu'on passe de cette lettre à une première ébauche de proposition pour un foyer juif?
Alors, dans un premier temps, il faut savoir, on en reparlera dans une autre émission, que, évidemment, le soutien à la cause britannique ou la cause des armées alliées n'est pas uniquement contenté d'une action diplomatique. Le mouvement sioniste s'est également mobilisé dans l'armée. Donc il y a eu des légions qui se sont engagées dans l'armée britannique pendant la guerre et également un réseau de résistance et d'espionnage en faveur de la Grande-Bretagne qui ont aidé à la conquête de la Palestine par l'armée britannique. D'accord. Donc ça a été un effort concret. Donc il y avait une alliance. C'était une alliance qui n'était pas seulement politique, c'était aussi une alliance militaire, même si, évidemment, le mentionniste n'a fait qu'apporter une petite obole, je dirais, mais en tout cas, symboliquement, il y avait un engagement. Donc, au lendemain de la guerre, dans ces conférences sur la paix, les grandes puissances vont décider d'accorder un mandat à la Grande-Bretagne sur la Palestine. D'accord. Et ça, on le verra dans quelques minutes.
Alors nous allons faire une nouvelle petite pause musicale et on se retrouve après.
נשארו עוד בוודאי צעדיי ועקבותיי ואימי עוד קוראת לי בקולה אך איני יודעת מה קרה אי עבדה הדרך הברוכה אי עבדה הדרך אל הכפר הדרך כבר רציתי לשוב בחזרה אל הדרך הקסומה של ילדותי אני שבה בחסות Oh,
Voilà, c'est Rivka Zohar qui chante « Nous revenons tous dans notre village ». Voilà, c'est une chanson sioniste bien connue.
Michael, qu'est-ce qui a poussé les Anglais à écrire cette déclaration de Balfour ?
Difficile de pousser les Anglais, mais c'est plutôt les Anglais qui nous ont poussés. Mais disons qu'il y a plusieurs raisons, c'est assez complexe. Quand on analyse, évidemment, bon, on a parlé des raisons géopolitiques et de tout ce qui s'est passé, le fait que finalement, dans cette répartition du Proche-Orient, il y avait d'abord la conception sioniste réelle de Balfour. Balfour était sioniste, c'est quelqu'un d'assez religieux, c'est quelqu'un qui avait une culture religieuse dans laquelle le peuple juif était pour lui quelque chose de, je dirais, un peuple qui avait énormément apporté à l'humanité, et donc il fallait rendre une forme de justice à ce peuple en lui redonnant la possibilité de retourner sur sa terre. Donc ça, c'était sa conception, je dirais presque mystique d'une certaine façon. Et d'un autre côté, il y avait quand même une communauté juive anglaise importante qui était, je dirais, on se souvient de Disraeli, hein, donc il y avait déjà eu un premier ministre juif en Angleterre, donc c'était la communauté juive est une communauté qui a une influence et qui donc a également fait pression pour cette déclaration. Il y a la communauté juive américaine également, et donc les Américains ont soutenu à cette époque le mouvement sioniste en disant qu'il fallait justement rendre justice au peuple juif pour ce qu'il avait fait pour l'humanité d'une certaine façon, et que c'était tout à fait normal que les Juifs qui le peuvent et qui n'ont pas d'autre choix puissent s'installer en Palestine, sur la terre de leurs ancêtres. Il y avait aussi une autre conception, qui évidemment est liée aussi à la vision qu'on a de l'Orient, c'était que pour les Britanniques, il fallait absolument séparer la Palestine de la Syrie.
Pourquoi ?
Alors pourquoi c'est lié, je dirais, un peu à la religion anglicane, d'une certaine façon, parce que là, c'est la vision de... Qu'est-ce que la Palestine aux yeux d'un anglican ? Alors, la Palestine, aux yeux d'un anglican, est la patrie dans laquelle a vécu le peuple juif.
D'accord.
Alors que, pour les catholiques, c'est-à-dire la France, qui est de majorité catholique, pour la France, la Palestine n'existe pas en tant que Palestine. La Palestine, c'est la terre sainte, c'est-à-dire la terre où Jésus a vécu. Et donc, lorsque les catholiques viennent, c'est pour aller sur les pas de Jésus, là où Jésus a réalisé ses miracles, là où il a vécu. Donc, l'idée qu'il puisse y avoir une Palestine n'était pas dans l'imaginaire français. L'imaginaire français, c'est un imaginaire, on parle de l'Orient et de la Terre Sainte dans l'Orient.
D'accord.
Donc la Terre Sainte, est-ce que c'est la Palestine ? Oui, c'est la Palestine parce qu'il faut donner un nom géographique, mais ça n'a pas de sens en tant que tel. Alors que dans la conception anglicane, la Palestine a du sens.
D'accord.
Donc il y avait quand même malgré tout dans cette vision également, évidemment, de séparer la Syrie de la Palestine, c'était aussi de séparer la zone sous influence française de la zone qui serait sous influence anglaise. Mmh. Il faut aussi voir que les Anglais sont quand même des gens très pragmatiques et des gens qui ont une visée impériale à l'époque, et ils considèrent que ce sont des frontières qu'ils ont la possibilité de défendre et qu'ils ont la possibilité d'occuper ce terrain. Et une analyse également de la population locale. C'est une zone où il n'y a pas énormément d'habitants, donc facile à contrôler du point de vue britannique. Après, ils se sont un petit peu rendus compte que c'était un peu plus compliqué. Mais ils avaient très bien analysé la situation sur le terrain. Quelle était cette situation ? Environ 80 000 juifs à la veille de la guerre. Un nombre d'Arabes palestiniens qui n'était pas beaucoup plus élevé. Aux alentours de 100, entre 100 et 200 000, sans savoir vraiment qui sont palestiniens, mais qui, pour la plupart, étaient désignés comme étant des Syriens, je l'ai déjà dit, et une partie de tribus bédouines et des populations locales. Alors, par rapport à cela, les Britanniques ont très bien compris qu'ils étaient en mesure de désigner à la fois un pouvoir, enfin, ou des représentants d'un pouvoir sioniste. C'était facile, puisque l'organisation sioniste existait, il y avait un mouvement sioniste organisé, relativement structuré, avec des partis, ou en tout cas un conseil, en tout cas des commissions qui existaient sur le terrain. Donc ils allaient avoir des gens à qui parler, des partenaires, des interlocuteurs, je dirais. Et en ce qui concerne la population arabe, ils ont très bien analysé le fait que dans certaines villes, ils avaient la possibilité de trouver des interlocuteurs. Et donc, par rapport à cela, ils se sont dit, une fois que le pouvoir ottoman aura disparu, nous aurons la possibilité de contrôler assez facilement, avec notre armée, cette région. Donc, je pense que c'était un calcul tout à fait stratégique, politique, et une analyse sur le terrain. Il faut savoir que les agents britanniques, notamment les agents secrets britanniques, étaient extrêmement présents sur le terrain depuis des années. Mmh. On reviendra sur le réseau Nili qui a aidé justement à la conquête de la Palestine, mais ils avaient très bien analysé le fait que les nombres de soldats ottomans, turcs à l'époque n'étaient pas très importants. Ils avaient très bien compris la possibilité qu'il y avait d'utiliser les populations les unes contre les autres, de favoriser certaines choses, de contrôler notamment l'immigration. Et donc, c'est ce qu'ils vont faire dès le départ. Alors, ce qui est important du point de vue juif, je reviens sur le point de vue juif, c'est avant tout le côté symbolique. Pour le mouvement sioniste, la déclaration Balfour, elle est importante parce que elle représente le premier acte international, la première lettre, la première reconnaissance. Et c'est avec cette déclaration Balfour, ou sur la base de cette déclaration Balfour, qu'ils vont pouvoir, au lendemain de la guerre, revendiquer leur droit aux conférences internationales sur la paix. Une des raisons pour lesquelles le mouvement sioniste a considéré que cette lettre, qui, comme tu l'as dit, est très courte et très générale, disons, on n'est pas très très précise, on ne parle pas de frontières, on ne dit pas où c'est là, exactement la Palestine, est-ce que c'est la partie occidentale, la partie orientale, on ne parle pas du tout des frontières, évidemment à cause des accords, ça explique mais pas seulement, on ne dit pas exactement, on ne définit pas ce qu'est ce futur État juif, quelles seront ses frontières, quelles seront ses limites, qui pourra y habiter, quels seront les droits à l'immigration, qui pourra s'y installer et sous quelles conditions. Tout ça n'est pas précisé.
Et quand est-ce qu'on commence justement à parler de frontières, à parler de propositions ?
Justement, c'est au moment des conférences internationales, au lendemain de la guerre, que l'on va commencer à négocier cette question. Et là, on va tout d'un coup prendre connaissance des accords Sykes-Picot et des promesses qui ont été faites auparavant, parce que tout le monde va venir avec son petit papier.
D'accord, donc on sait à ce moment-là qu'il y a aussi une autre promesse qui a été faite.
Voilà, on apprend. Curieusement, le mouvement sioniste l'apprend d'une façon tout à fait assez curieuse, je le raconte dans un de mes livres. C'est là, dans un journal de Manchester, on apprend tout d'un coup, les accords de Sykes-Picot sont tout d'un coup révélés par un journal de Manchester. Et je ne me souviens plus de la date exacte, mais pas très longtemps après la déclaration Balfour. Et donc là, les sionistes sont un petit peu choqués. Ils disent, mais enfin, qu'est-ce qui se passe ? Et évidemment, les populations arabes aussi, puisqu'on leur avait promis autre chose. Alors, tout ça, on dit, ça va être réglé, finalement, peut-être, lors de ces conférences sur la paix. Mmh. Dans ces conférences sur la paix, il y a plusieurs étapes. J'y reviendrai dans une autre émission. Il y a plusieurs étapes de négociation. C'est-à-dire que d'abord, on négocie pour savoir qu'est-ce qu'un État ? Qu'est-ce que c'est que, aujourd'hui, on appelle ça l'autodétermination ? Qu'est-ce que c'est que le droit à l'autodétermination ? Alors, il y a le ministre américain des Affaires étrangères qui s'appelait Woodward Wilson, qui formule, je dirais, ce qu'on appelait les points de Wilson. On appelle ça les points de Wilson, c'est 11 points qui définissent ce qu'est le droit à l'autodétermination, et on comprend que ça va être, je dirais, le fondement peut-être de toute la politique au XXe siècle, avec la création de nations et le droit d'un peuple à l'autodétermination. Alors, qu'est-ce qu'un peuple ? Comment est-ce qu'on peut le définir sur le plan ethnique, sur le plan linguistique, sur le plan culturel, sur le plan territorial, sur le plan culturel, il y a beaucoup de paramètres.
En gros, pour résumer, c'est qui a le droit à un État et où ?
Et c'est surtout comment on peut définir qu'un peuple est un peuple et a droit à l'autodétermination.
D'accord.
Et là, évidemment, ces points de Wilson sont extrêmement larges. Je dis que tout le monde a le droit, au fond. Alors, quand est-ce qu'un peuple peut se déclarer étant un peuple ? À l'époque, évidemment, le peuple juif est un peuple. Le peuple juif est une nation. mais les nations en Europe considèrent les Juifs comme une religion. Donc, il y a déjà un premier point, je dirais, pour définir ce qu'est la nation juive, puisqu'on comprend bien que tous les Juifs ne vont pas aller s'installer dans ce foyer juif, puisqu'il y en a certains qui vont préférer rester des Français de confession israélite ou de confession juive, et que d'autres vont préférer être britanniques de confession mosaïque, comme on dit chez eux, et d'autres vont préférer être juifs sur le plan national, disons, et choisir la nationalité juive. Donc, le droit à l'indépendance, le droit à une autodétermination est quelque chose de fondamental d'un côté, mais d'un autre côté, il faut aussi que ce droit soit reconnu par les voisins. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué, en général, parce que on se rend compte, on l'a vu après dans toutes les guerres qui se sont déroulées dans les Balkans, qu'il y a dans les pays des peuples qui sont imbriqués les uns les autres, dans les autres. Et donc, on se souvient, évidemment, après l'affaire des Sudètes en Tchécoslovaquie, mais on a vu ça après en Bosnie. Bon, il y a des Serbes chez les Bosniaques, il y a des Croates chez les Slovènes. Voilà, donc tout ça sont des nations qui sont imbriquées les unes dans les autres. Et dire qu'il y a un principe d'autodétermination, ça ne suffit pas. Il faut des accords internationaux pour garantir, justement, les frontières.
Donc là, le but pour les sionistes, c'est d'avoir un accord international pour la création d'un foyer national juif.
Voilà. Et donc, dans un premier temps, les sionistes se disent, ça c'est un choix politique de Weizmann, de dire finalement, on doit faire confiance aux Britanniques, ils ont soutenu, il y a la déclaration Balfour, donc il faut leur faire confiance, ils vont demander à avoir un territoire qui sera, disons, suffisant et qui correspond historiquement à ce qu'a été Eretz Israël, la terre d'Israël, la Palestine historique, qui est la terre de nos ancêtres.
Et est-ce que c'est le cas ?
C'est le cas. Au départ, c'est le cas.
Dans un premier temps, c'est le cas.
Dans un premier temps, c'est le cas. À savoir que les Britanniques n'ont aucun problème à demander un mandat sur l'ensemble de la Palestine, c'est-à-dire ce qu'on définit dans les accords internationaux comme étant la Palestine, mais je ne saurais pas te dire si c'est la Palestine historique. Mais en tout cas, ça correspond plus ou moins à ce qu'on peut appeler, nous, Eretz Israël, c'est-à-dire à des régions dans lesquelles nos ancêtres ont vécu. Alors, nos ancêtres ont vécu, ils ont été de ce côté, je dirais, rive occidentale du Jourdain et rive orientale du Jourdain. Donc, le mandat britannique va s'appliquer sur une zone qui est la partie occidentale et orientale du Jourdain, sauf que dans la partie occidentale, c'est assez clair, puisque ça va de la mer jusqu'au Jourdain. Mais sur la partie orientale, on va dessiner ça un peu avec comme une espèce de trapèze. Alors, pourquoi comme ça ? Eh bien, c'était évidemment lié aux Français et aux autres groupes, puisque c'était des zones quasiment désertiques. Donc, au départ, les sionistes se disent, bon, finalement, si c'est ça le mandat britannique, il n'y a pas de problème. Weizmann, qui était quelqu'un de prudent, dit qu'il faut quand même essayer de voir si nos partenaires sur le terrain, à savoir les populations arabes, si ce découpage, parce que c'est un découpage finalement, qui va être proposé comme étant le mandat britannique aux conférences de la paix, si ce découpage leur convient. Et donc Weizmann échange des lettres avec l'émir Faisal.
D'accord.
Et il y a un échange de lettres qui se déroule entre le mois de juin 1918 et le début de 1919. Donc plusieurs lettres sont échangées entre Weizmann et Faisal, sur lesquelles, finalement, Faisal dit « Oui, nous sommes à peu près... »
Ah d'accord.
Voilà, nous connaissons les exigences ou les revendications du mouvement sioniste et elles nous semblent raisonnables, à condition que nous obtenions ce que l'on nous a promis.
Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'on leur a promis.
Mais t'as tout compris.
D'accord.
T'as tout compris.
C'est-à-dire que les populations sur place auraient accepté ce premier découpage
si les engagements qui avaient été pris envers elles avaient été respectés.
Et ces engagements n'ont pas été respectés
parce qu'ils elles contredisaient les accords que les Anglais avaient signés par ailleurs avec la France.
D'accord.
Et donc, on est là dans une espèce de jeu d'échecs ou de puzzle.
D'échecs à plusieurs parties.
Voilà, c'est comme si tu as un puzzle et il y a un puzzle de 100 pièces, mais il y a 102 pièces. Donc il y a deux, trois pièces qui sont là en trop, donc il va falloir bouger une pièce du puzzle pour pouvoir le mettre à la place. Mmh. Et c'est ce que vont faire les Britanniques au début du mandat, on y reviendra à l'occasion, et c'est justement de bouger une partie du puzzle du mandat britannique pour y placer les Arabes qui n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis, parce que ça contredisait ce qui avait été promis, ou en tout cas ce sur quoi les Anglais s'étaient engagés envers la France. Mmh. C'est assez compliqué tout ça, évidemment, mais c'est, je dirais, le puzzle du Proche-Orient au lendemain de la Première Guerre mondiale. Il faut savoir aussi, contexte, lendemain de la Première Guerre mondiale, une guerre terrible, donc où la France, notamment, a payé le prix fort, énormément de victimes, mmh. les Anglais aussi, et donc très difficile dans des conférences sur la paix, et très difficile de s'opposer aux exigences des Britanniques et des Français. Mmh.
Nous allons malheureusement terminer l'émission. Et pour conclure, qu'a apporté vraiment cette déclaration de Balfour, et est-ce que cette première répartition va être suivie, ou ça va être...
Ça va servir quand même de fondement au mandat britannique, malgré tout. Après, évidemment, le pouvoir change. On n'a plus Lord Balfour en face de nous. Les responsables politiques vont changer. Et donc, la politique britannique va probablement évoluer. Mm-hmm. Mais lorsque les Britanniques arrivent, ils sont accueillis par les sionistes. Et le mouvement sioniste en général comprend qu'il y aura probablement un foyer juif qui va s'installer avec l'aide des Britanniques. On va un petit peu déchanter par la suite, mm-hmm. ça c'est sûr.
Merci beaucoup, Michael. Nous allons nous quitter avec
une chanson, évidemment, Chava Alberstein, c'est le pays que nous aimons.
Merci beaucoup, Michael.
ארץ נוי אביונה, למלכה אין בית, למלך אין כתר, בשבעה ימים אביב בשנה, וסגריר וגשמים כל היתר, אך שבעה ימים הורדים פורחים, בשבעה ימים הטללים זורחים, בשבעה ימים חלונות פתוחים, וכל קבצנה עומדים ברחוב ונושאים חברונם אל האור הטוב וכל קבצנאי שמחים מכורה שלי ארץ נוי אביונה למלכה אין בית למלך אין כתר רק שבעה ימים חגים בשנה